Bonsoir. Pour parler de Kampala, de déclarations mettant fin à ces négociations ont été signées jeudi dernier à Nairobi, au Kenya. L'une, signée par le M23, marque la dissolution de ce mouvement rebelle et l'autre, signée par le gouvernement, traduit l'engagement de Kinshasa à mettre en place notamment le programme de démobilisation des éléments du M23. En réaction, les forces acquises au changement en plateforme de l'opposition dénoncent les termes de ces déclarations qui ressemblent à un accord et accordent beaucoup d'avantages au M23. Comment analyser la signature de ces deux déclarations? C'est notre thème de ce soir. Participe au débat Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi.
Martin Fayulu, député national de l'opposition, il est président du parti politique SID. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Force Acquise au Changement. Monsieur Fayulu, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir aux auditrices et auditeurs.
Merci de nous suivre à Rutshuru dans le Nord Kivu sur la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Fini les pourparlers de Kampala. Un communiqué final conjoint a été signé jeudi dernier à Nairobi au Kenya et met fin au dialogue des 12 mois entre le gouvernement congolais et les anciens rebelles du mouvement du 23 mars. C'était en présence de l'équipe des envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs. Et selon ce communiqué, parmi les 11 points de consensus trouvés entre les partis, Kinshasa s'engage à amnistier les membres du M23 uniquement pour des faits de guerre et d'insurrection. Tandis que l'ancienne rébellion s'est dissoute et se transforme en parti politique légitime. Jeff Ngoy pour les détails.
Les deux déclarations du gouvernement congolais et du M23 couvrent notamment les dispositions transitoires de sécurité conduisant au désarmement et à la démobilisation des anciens combattants du M23, la libération de ses membres détenus par le gouvernement pour faits de guerre et d'insurrection, le retour des réfugiés et personnes déplacées internes dans leur foyer. Il ressort également de ces déclarations la création d'une commission chargée de la question des biens spoliés, extorqués, volés, pillés, détruits, terres comprises. D'autres points concernent la réconciliation nationale et justice, la mise en œuvre des conclusions de la réévaluation de la mise en œuvre de l'accord du 23 mars 2009. Les envoyés spéciaux encouragent donc les parties à mettre en œuvre rapidement les engagements auxquels elles viennent de souscrire, dont le désarmement, la démobilisation et la réintégration des membres du M23 en RDC, au Rwanda et en Ouganda selon le cas.
Merci Jeff Ngoy pour les détails. Monsieur le gouverneur, Kampala, c'est fini. Plusieurs fois, on vous a eu dans cette émission sur cette question. Votre souhait, c'était de mettre fin à ces pourparlers. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui?
Oui, très satisfait comme toujours, parce que quand j'ai suivi la réaction de l'opposition, je me pose la question si réellement l'opposition a le même texte que celui que j'ai eu lorsqu'on a signé cette déclaration à Nairobi. Pour moi, je pense que on n'analyse pas avec passion. On ne gère pas un État dans la passion. Parce qu'un chef d'État ne peut pas tourner le dos à ses collègues, sinon à quoi serviraient alors les relations internationales? Vous savez, madame, nous venons de très loin. Et tout le monde sait que le pays était presque dans un isolement diplomatique qui ne disait pas son nom. Et la RDC, à travers son président, est en train de refaire son image. Comme vous le savez, c'est depuis un certain temps que les pays étaient en difficulté, et les Nations Unies, l'Union africaine, la CIG, la SADC, tous ces institutions se sont réunis pour demander à la RDC de devoir écouter les doléances légitimes du M23. Et aujourd'hui qu'on est arrivé là, je crois qu'il y a deux mérites qu'il faut reconnaître à l'aboutissement du processus de Kampala. Le premier mérite, c'est lequel? C'est qu'effectivement, avec ce processus, on vient de révéler à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'il y avait un plan de balkanisation de ces pays. C'est un mérite très important. C'était resté un secret, mais c'est grâce à ce processus qu'effectivement, toutes les nations du monde ont compris que la RDC était en danger. Le deuxième mérite, c'est qu'effectivement, à travers la fin de ce processus, on va ramener tous ces éléments du M23 où la justice congolaise les attend au pays. Parce que les laisser davantage à l'extérieur, au Rwanda ou en Ouganda, c'est davantage faire développer un danger qui pèse sur la RDC. Mais pour moi, j'estime que le fait pour ces gens de revenir au pays, la justice doit les attendre, parce que même s'il y aura une amnistie, c'est une amnistie pour des faits seulement de guerre, mais non pas pour les crimes commis, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité qui ont été recensés par toutes les organisations. Donc moi, je pense que l'honorable Martin Fayulu ferait mieux de devoir révéler les textes qu'il a, sinon les textes que moi j'ai ne donnent aucune violation que les pays, la RDC, a pu à laquelle il s'est livré.
Alors, monsieur le gouverneur, quand vous dites que l'amnistie va concerner seulement des crimes comme les faits des guerres, comme vous dites, qu'est-ce que ça signifie pour les auditeurs des radios Okapi qui nous suivent?
Ça signifie ceci, le fait de s'être retrouvé au M23 pour une insurrection contre la République, c'est fait seulement là, ce comportement-là de s'être rebellé contre ce pays. C'est celui-là qui n'est pas passible, qui va être amnistié. Mais tous les actes que les rebelles, que les criminels ont commis, ils ont fait violer les mamans, ils ont tué des gens à Kiwanja, à Bunagana, à Rutshuru, tous ces actes-là seront punis. Et donc, à ce stade, le gouvernement congolais devra, je l'ai toujours dit, il devra, à travers le ministère de la Justice, lancer des mandats d'arrêt contre les personnes et déjà commencer à confectionner les dossiers par individu. Pour que le jour où cela va arriver, qu'on sache que tel Makenga, tel Kazarama, tel Bissimwa, tel ceci, ce sont des gens qui ne sont pas concernés par l'amnistie. Tous ces dossiers sont en train d'être confectionnés et je crois qu'il n'y a pas de peur à se faire au niveau de l'opinion. Ce qui est important, c'est que Kampala et Nairobi nous ont permis de comprendre les plans qui étaient ouverts contre la RDC et nous devons nous en réjouir parce que nous pensons que c'est la dernière fois que des aventuriers viennent dans notre pays.
Alors, monsieur le gouverneur, y a-t-il une raison quelconque qui poussait et le gouvernement, les M23, à signer cet accord à Nairobi?
Non, je pense qu'à marge du cinquantenaire de l'indépendance de ce pays, il était entendu que les chefs d'État puissent se déplacer. Vous savez que le déplacement des chefs d'État coûte très cher. On ne pouvait pas, alors qu'on s'est retrouvé à Nairobi, encore déplacer d'autres chefs d'État pour venir à Kampala, alors que nous s'est retrouvés à Nairobi. Moi, je crois qu'on a profité de ce grand événement à Nairobi, où on célébrait les 50 ans d'indépendance de ce pays, pour que la présence des autres chefs d'État serve de témoignage à l'aboutissement de ce processus.
Alors,
d'un point de vue de l'analyse, que j'estime que cela a été tout à fait normal.
Je reviens sur la déclaration des forces acquises au changement, qui estime que ces déclarations ressemblent plus à un accord et qu'en plus, les M23 a beaucoup plus d'avantages dans ces déclarations.
Moi, je crois que l'opposition ne doit pas vouloir montrer à l'opinion qu'elle voulait que la guerre puisse continuer pour qu'elle continue à avoir à dire vis-à-vis du gouvernement. Parce qu'on a l'impression que c'est finalement ça. C'est comme si on voulait que les choses perdurent, comme ça on a le temps de tirer chaque jour sur le gouvernement. Maintenant qu'on a atteint une certaine étape, qu'on est en train d'éliminer ces menaces qui pesaient sur nous, qu'on va maintenant vers la stabilité, pourquoi ça doit faire mal? Et ce que j'ai dit au début, c'est qu'on ne gère pas un État avec passion. On ne va pas prendre tous les éléments 23 et les mettre dans un four. Non.
Est-ce que
c'est des Congolais, on va les amener. on voit ceux qui sont attendus dans les prisons, d'autres, on voit ce qu'il faut en faire. Et vous devez noter que, madame, avec tous les auditeurs, qu'avec ce qui vient d'être signé à Nairobi, il n'y a pas d'intégration des éléments du M23 dans les forces armées de la RDC.
Alors,
pourquoi ça doit faire du mal?
Ce qui vient d'être
si
signé, monsieur le gouverneur.
On voulait intégrer, on voulait souhaiter qu'on réintègre ces gens dans l'armée. Moi, je ne vois pas en quoi la déclaration constitue un problème fondamental.
Monsieur, justement, j'allais vous poser la question sous la déclaration. Vous considérez ça comme une déclaration et non un accord?
Oui, c'est une déclaration qu'on peut même lire à la radio. C'est pas un accord.
Mais lorsque le gouvernement...
Moi, je prends ça comme une déclaration qu'on pouvait lire à la radio in extenso. Et ce n'est pas un accord.
Et lorsque le gouvernement...
Il n'y a pas eu de signature des deux parties conjointes pour dire, moi, je m'engage à ceci à côté de tel.
Mais donc, j'ai la déclaration devant moi. Le gouvernement s'engage d'un côté, le M23 aussi de son côté s'engage. C'est des accords, c'est un accord.
Sous réserve que ces criminels-là, qui ont été identifiés depuis longtemps, ne puissent plus revenir au schéma dans lequel ils ont été avant. Si vous lisez bien, par exemple, la loi d'amnistie, on dit chacun va s'engager individuellement de ne plus revenir sur ça. Sinon, si chacun reprend encore les armes, même la loi d'amnistie tombe caduque.
Donc,
je crois qu'il y a eu un verrou important qu'on a placé dans ce texte pour permettre que, désormais, les aventuriers, comme je l'ai dit, ne viennent chaque jour troubler. Et les acteurs ont été identifiés.
Merci,
dans la région de Grand
Lac.
C'est là qui ont toujours déstabilisé le pays et c'est très important pour la RDC.
Merci, monsieur le gouverneur. Martin Fayoulou, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et coordonnateur de la plateforme Force Acquise au Changement, FAC en sigle. Vous êtes aussi président du parti politique Engagement pour la Citoyenneté et le Développement SID. Comment vous avez accueilli la signature de ces déclarations de Nairobi qui mettre fin pour parler de Kampala?
Mais la signature de ces documents, c'est un marché de dupes. Donc le peuple congolais a été bien roulé dans la farine. Donc je comprends le gouverneur Paluku, mais il faut qu'on lise les documents. Là, les communiqués final conjoints dit ceci. Les deux déclarations prises ensemble couvrent les 11 points négociés et convenus par les gouvernements de la RDC et le M23. En résumé, les 11 points sont. C'est les mêmes 11 points que les Congolais avaient rejetés. Le même 11 points que les députés de l'Assemblée nationale avaient rejetés. Et ces 11 points ont été repris et séparément, on les signe. Madame, je vais vous dire que nous venons d'assister à la remise en selle de l'accord du 23 mars 2009. Quand vous prenez les trois documents, vous les lisez et vous constatez que c'est exactement la même chose. C'est comme d'ailleurs si ça a été rédigé par une même personne. Mais vous avez les documents. Donc c'est le même document. On remet le M23 qui était mort de sa belle mort. Et voilà, le gouvernement congolais va ressusciter le M23. On donne une prime au bourreau du peuple congolais. Le M23...
Quelle prime on donne au bourreau, Martin Fayoulou?
Mais très clairement, le M23 peut devenir un parti politique. Mais vous avez déjà les CNDP. Et vous savez que l'accord du 23 mars 2009 a été signé par qui? Par les CNDP. C'est un parti politique. On donne un deuxième parti politique. Vous donnez l'autre prime, c'est quoi? Ils vont participer à la gestion des réfugiés, le M23. Le M23 va participer, ou les membres vont participer à la commission des biens spoliés. Ils vont participer au mécanisme de suivi. C'est écrit, et c'est tellement bien écrit, que les documents signés, les communiqués finaux conjoints, signés par le président Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, et président en exercice de la CIRGL, Madame Joyce Banda, présidente du Malawi, présidente en exercice de la SADC, ils disent dans le dernier point, enfin, nous prions les partenaires internationaux, notamment les Nations Unies et l'Union africaine, de travailler ensemble et de fournir soutien et ressources au gouvernement de la RDC pour la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de pourparlers de Kampala et le processus de suivi selon qu'il conviendra. Qu'est-ce que vous appelez ça? Un document signé à la volée?
Mais ce après la dissolution du M23, est-ce qu'il fallait pas réintégrer ces gens-là, faire une réintégration sociale, ou les occuper au risque qu'ils aillent se réorganiser et refaire une nouvelle rébellion?
Mais madame, ces gens-là, faire une nouvelle rébellion comment? Vous avez demandé, monsieur Ross Fengol, a demandé au président Kagame d'aller se mettre autour d'une table avec les FDLR. Est-ce que Kagame a accepté? Non. Il a dit que c'est une force négative, je ne signe rien avec eux. Et ces FDLR sont où? Ils ne se trouvent pas au Congo? Ils ne se trouvent pas au Congo? Maintenant, les gens qui sont au Rwanda et en Ouganda, et le gouverneur dit qu'ils vont être traduits à la CPI, mais les Rwanda et l'Ouganda n'ont pas signé les traités de Rome. Comment ils vont extrader ces gens-là? Dans les documents, on n'a pas demandé, même dans les communiqués conjoints, on pouvait demander au président Museveni et à Kagame qu'à un moment donné, si on a besoin de ces gens-là et de les livrer à la CPI. On a passé la RDC qui donne tout et n'obtient absolument rien. Donc, vous convenez avec moi que pourquoi on a mis tant de temps? Pourquoi on a donné tant de mal? On a donné espoir aux Congolais. On a induit même certaines personnes en erreur. Parce qu'il y a des gens qui ont soutenu le gouvernement, qui ont félicité le gouvernement. Mais ces gens-là regrettent aujourd'hui, parce que peut-être ils ne peuvent pas le dire à haute voix. Ils les regrettent. Donc, on a induit les gens en erreur. Et voilà, la pilule était tellement amère. Et pour faire avaler la pilule aux Congolais, il fallait peut-être donner une boisson sucrée ou je ne sais pas, pour que les Congolais acceptent. Mais les Congolais ne peuvent pas accepter un tel accord. Et vous avez ici cet accord du 23 mars. Dans les textes, il est dit, on parle de l'accord du 23 mars. Donc, le gouvernement congolais est tenu d'exécuter ses engagements pris dans le cadre de cet accord. Alors, monsieur Julien Paluku, j'aimerais bien qu'il me dise, parce que je l'ai suivi à l'époque. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a qualifié l'M23 d'une mutinerie, de simples indisciplinés. Donc, aujourd'hui, il doit demander pardon à la population du Nord Kivu, parce que je sais que la population
attend des pardons. Il va vous répondre, Martin Fayulu,
en l'entendant. Il va répondre aux Kivusiens.
En l'entendant, on va prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Salomon Zaïga de Bukavu au sud Kivu. La fin des négociations de Kampala, sanctionnée par les deux déclarations, marque la fin du M23 en tant qu'acteur majeur de la crise à l'est de la RDC et confirme la position actuelle de la RDC des vainqueurs. Cela étant, le gouvernement congolais ne voulait pas être traité au même pied d'égalité avec l'ex-mouvement rebelle, d'où elle ne voulait pas signer un acte juridique contraignant.
Alors, comment répondre à cet auditeur qui estime que la RDC est aujourd'hui en position de vainqueur?
Non, c'est l'M23 qui est vainqueur, parce que l'M23 vient renforcer le CNDP, parti politique. L'M23, d'ailleurs, je comprends bien que jusqu'à présent, qu'on n'ait pas mis en place ce gouvernement de cohésion nationale 2 mois après. Je n'ai rien à voir, mais je comprends, parce qu'on attendait ces M23. Et ces éléments-là, certains vont être dans ces gouvernements. Donc c'est une prime. L'M23 n'est pas fini. L'M23, d'ailleurs, l'M23 était divisé avant la signature de ces engagements. Ils étaient divisés. Mais les autres qui ne sont pas contents, qui n'auront pas de poste, mais ils vont encore aller, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez appeler ça, si c'est la rébellion ou la mutinerie.
Merci Martin Fayulu, professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Quelle est votre analyse de la signature de ces deux déclarations à Nairobi au Kenya?
Merci, bonsoir aux auditeurs et bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir. Je voudrais d'abord dire, en guise d'introduction, lorsque l'on lit effectivement les différents textes, les différents communiqués et déclarations et autres qui ont été signés à Nairobi, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a l'impression que tout le monde voulait absolument se débarrasser de cette histoire de Kampala, puisque ça n'a mené nulle part du fait que le M23 avait déjà été battu sur le terrain. Alors, quand on lit les textes, effectivement, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui ne collent pas et où on voit qu'il y a des coupés-collés. Par exemple, lorsque vous regardez par rapport à la déclaration du gouvernement congolais, vous savez, là-dedans, on parle des ex-combattants du M23, ex-représentants du M23, etc., etc. Tandis que dans le communiqué de CIGL, ça dit qu'on parle du M23 et dans la déclaration même du M23. Mais alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les ambiguïtés ont voulu, donc on clore cette histoire, on se lave les mains et on dit que c'est terminé et voilà, on sanctionne ça par quelque chose. Mais dans le fond, je pense que de manière claire et précise, c'est que ces documents, ces différentes déclarations n'ont aucune valeur. Pourquoi est-ce que n'ont aucune valeur et n'ont aucune valeur du fait que, dans un premier temps, il s'agit de simples déclarations et de simples communiqués. Par ailleurs aussi, c'est que dans ces documents même, en fait, on sanctionne, en fait, la fin, on constate la fin du M23. Alors, si on constate la fin du M23, je vois mal comment le gouvernement congolais, après, va commencer à débattre, à négocier avec des gens qui n'existent plus en tant que mouvement. Pour que ces gens puissent exister en tant que mouvement, comme le dit très bien les différents textes et les différents points, il faut que le M23 se transforme en parti politique. Et en se transformant en parti politique, là, il pourrait, si je ne sais pas comment il va s'appeler, s'il va s'appeler parti politique M23 ou autre chose, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourrait commencer à discuter de toute une série de choses. Notamment sur toutes les autres questions, notamment les questions d'amnistie, les questions de biens pillés, les questions liées aux réformes, les questions même liées à la mise en place des plans de démobilisation. En fait, tous ces points-là ne sont que des prérogatives claires qui relèvent de la compétence du gouvernement congolais. Et donc, de manière synthétique, donc pour ma part, ces déclarations ne font que constater, au fait, en disant, mais non, c'est fini, on ne discute plus de rien, et je vois mal que c'est sur base de ces documents ici que le ex-combattant ou le ex-mouvement M23 va pouvoir se prévaloir d'une quelconque négociation avec le gouvernement congolais. Et ici, je crois que le gouvernement congolais a joué de manière fine, a réussi, au fait, à signer, à montrer que il n'y a plus rien à négocier, même si dans les déclarations, ils mettent des déclarations qui relèvent, au fait, de la compétence du gouvernement congolais. Et c'est le gouvernement congolais lui-même, sans agenda, qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, par exemple, sur la question des amnisties, sur la question de libération des prisonniers, transformation du M23, démobilisation, etc. Toutes ces questions-là se relèvent en fait de la compétence de la RDC. Alors, et à la RDC de pouvoir mettre ça en œuvre ou pas.
Professeur Bob Kalamba, si je vous comprends bien, lorsque vous dites ces déclarations n'ont aucune valeur, c'est-à-dire le gouvernement congolais est libre d'accepter ou pas de mettre en pratique ses engagements pris.
Oui, le gouvernement congolais était maître de son agenda pour savoir s'il va appliquer ses différentes déclarations ou pas. Et c'est comme si, c'est ça ce qu'on appelle des lettres de bonnes intentions. Donc on fait des bonnes intentions, mais alors il y a une différence entre faire une lettre de bonne intention et une mise en œuvre, et qui est tout à fait autre chose. Je vous donne un exemple. On parle de l'amnistie qui sera accordée au M23. Bon, dans l'accord, on n'aurait pas, dans le communiqué, il aurait été beaucoup plus sain de ne pas parler du M23, de parler de ex-M23, puisque le M23 n'existe pratiquement plus. Alors là, par exemple, pour ce qui concerne l'amnistie, en fait, c'est le gouvernement qui doit choisir finalement qui pourrait être amnistié de manière individuelle et qui ne le serait pas. C'est de la compétence claire du gouvernement en fonction de son agenda, en fonction de ce qu'il a envie de faire. Et ça ne veut pas dire que ces différentes lettres d'intention qui concernent ces différentes déclarations lient le gouvernement congolais. Je suis formel. Ces déclarations ne lient en aucune façon le gouvernement congolais, et même lorsque l'on lit le communiqué final, c'est un communiqué qui constate, ça ne lie en aucune façon le gouvernement congolais. Ce qui lie le gouvernement congolais, c'est la résolution 2098 et pas ces différentes déclarations. Et même lorsque vous lisez la déclaration de l'ex-mouvement M23, les engagements qu'ils prennent, et pour ma part, ce sont des engagements et qui ne sont que des lettres d'intention d'un mouvement qui n'existe pas pratiquement plus.
Mais professeur Bob Kabamba, au moment où le gouvernement dit « je m'engage », est-ce que le M23, il s'engage et qu'un jour, il ne respecte pas ses engagements vis-à-vis du M23? Est-ce qu'il n'y a pas risque que ces M23 reprennent les armes en avançant comme raison le gouvernement n'a pas respecté ses engagements?
Là, vous posez une autre question qui n'a rien à voir avec ces déclarations. Vous devez savoir que dans, on est dans cette région des Grands Lacs, tout prétexte est bon pour recommencer une guerre. Le M23, on sait d'où il vient, le CNDP, on sait d'où il vient, et sur d'autres mouvements rebelles qu'on a connus dans la région, on sait d'où ils viennent et on sait par qui ils sont manipulés, par le Rwanda pour ne pas le citer. C'est-à-dire que si on veut prendre prétexte sur ces accords pour faire une guerre, on prendra prétexte sous les accords pour faire une guerre. S'il n'y avait pas ces déclarations communiquées, etc., je vous assure, mais il y aura d'autres raisons, d'autres prétextes qui seront avancés pour faire la guerre. Ce ne sont pas ces déclarations qui empêcheront une future guerre probable qui pourrait survenir ici 2 ans si le Congo n'arrive pas à avoir une armée forte pour résister et sécuriser ses frontières ainsi que les personnes et les biens.
Merci, professeur Bob Kebamba. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, il y a Mengi Viti Richard de Butembo Nord qui dit ceci. Je reprends les propos de son excellence, monsieur le gouverneur Julien Paluku, selon lesquels on ne devrait pas être dupe quant à l'engagement de monsieur Bertrand Bisimwa au nom du M23, entendu que ce monsieur n'est en rien le vrai répondant de ce mouvement. Il y a aussi l'honorable Fayolou qui a soulevé une question quand même assez importante. Le gouvernement a signé cette déclaration avec quelle aile du M23?
Oui, madame, ce qui nous intéresse, ce n'est pas quelle aile du M23, c'est les résultats auxquels on arrive. Je l'ai dit au départ, c'est ce qui est très très important pour la République démocratique du Congo. Les complots sont démasqués, au moins on est sur une bonne voie. Hier on parlait des mutineries. J'avais raison de dire que c'est une mutinerie parce que je vivais avec Bosco Ntaganda dans la ville de Goma. Il faisait partie des forces armées de la RDC. Quand quelqu'un qui fait partie de l'armée régulière quitte pour aller en brousse, je pense que c'est cela qu'on appelle mutinerie. Il s'insurge contre son propre gouvernement. C'est la suite des événements et la suite de la guerre qui est venue nous démontrer que il ne s'agissait pas seulement de Bosco Ntaganda ou de Makenga, qu'il y avait des gens derrière eux. Donc je n'ai pas eu tort d'avoir qualifié le début de la guerre d'une mutinerie. C'était tout à fait normal qu'au début, ça s'appelle mutinerie, même si dans le cours des événements, on a démasqué évidemment ce qui était derrière la guerre. Des deux, je crois que, comme je l'ai dit souvent, l'État, on ne le gère pas dans la passion. Ce qui est arrivé au M23 aujourd'hui, on a signé avec 6 mois, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que la justice congolaise va faire de tous les criminels qui se sont retrouvés plusieurs fois à Kampala ou à Nairobi. Et c'est là où, au niveau du ministère de la Justice, effectivement, au niveau du parquet général, au niveau même de l'auditorat général, on doit activer les dossiers individuels de chaque membre du M23 pour qu'in fine, on sache réellement qui sera réinséré dans la société congolaise sans être poursuivi. Et comme a dit le professeur, ici, il ne s'agit pas d'un acte ou d'un accord qui lie le gouvernement au M23. Non, c'est une déclaration. Et chacun a dit, je me fais à ceci et je pourrais éventuellement faire cela. C'est comme des communiqués qu'on pouvait lire. Donc, à mon sens, je crois que la République démocratique du Congo a tellement gagné qu'aujourd'hui, tous les manipulateurs des réseaux à l'intérieur de notre pays sont déjà démasqués et la population congolaise sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'une éventuelle guerre pourrait éventuellement naître.
Alors, on va prendre pour vous, monsieur le gouverneur, cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province orientale.
Kasere Kazitekere et Kisangani à province orientale. Je me demande si les M23 ont été défaits militairement par le FRDC tel que le gouvernement disait ou s'ils ont volontairement déposé les armes pour que documents soient signés à leur faveur. Si une rébellion est défaite militairement, pourquoi encore partir avec elle? Pourquoi endosser des bombes à retardement dans les sacs des futurs gouvernants quand bien les dirigeants actuels disaient avoir défait le M23 militairement? Cette signature encore fera l'objet des escarmouches dans le futur.
Réaction, monsieur le gouverneur.
Madame, monsieur Kasserega, comme tous les auditeurs doivent savoir qu'il y a eu plus de 7 sommets de chefs d'État pour la crise à l'Est. Et j'ai dit au départ, le président de la République ne peut pas tourner les dos contre ses collègues. C'est ça ce que la population doit comprendre. Lorsqu'hier nous étions en difficulté, ces États-là sont venus nous conseiller de poser un certain nombre d'actes. et nous les avons écoutés. Lorsque nous avons vaincu militairement les M23, est-ce que faudra-t-il que nous puissions développer une arrogance vis-à-vis d'autres chefs d'État qui ont accompagné le processus qui vient d'arriver à sa fin aujourd'hui? Vous savez que il y a eu 5 envoyés spéciaux. L'envoyé des États-Unis, l'envoyé de l'Union africaine, l'envoyé de l'Union européenne, les représentants spéciaux, Madame Robinson qui est nommée par les secrétaires des Nations Unies. Vous pensez que toutes ces personnes-là sont venues seulement se promener en RDC et qu'à la fin, on ne reconnaisse pas tous les efforts qu'elles ont pu déployer pour aider ce pays à refaire sa santé diplomatique? Je crois que la population devrait avoir l'information la bonne. C'est de cette façon que il fallait rendre honneur à tous ceux qui nous ont accompagnés dans le processus pour qu'on en arrive à cette fin-là. Même si nous avons gagné militairement la guerre, nous devrions prêter oreille à ceux qui nous ont accompagnés pour qu'ils continuent à accompagner les pays, surtout que les guerres sont souvent internationales. On ne peut pas croire que parce qu'on a eu une victoire d'une armée, on ne peut plus avoir besoin d'autres.
Merci,
c'est ce que le chef de l'État a posé comme acte vis-à-vis de ses collègues.
Merci, monsieur le gouverneur. Martin Fayulu, ces déclarations n'ont aucune valeur selon le prof Bob Kabamba et même le gouverneur Julien Paluku qui l'a appuyé.
Mais écoutez, si le professeur dit ça, ça serait intéressant pour moi que ça n'ait aucune valeur. Mais le gouvernement de la RDC ne va pas respecter ses engagements. Parce qu'il est dit dans le point 8 du communiqué final conjoint que nous saluons les conclusions des pourparlers de Kampala et félicitons les partis pour ces résultats. Nous les encourageons à remplir leurs engagements. Et puis plus loin, on lit ces engagements, on lit ces déclarations à l'accord cadre du 24 février passé. Alors comment est-ce que ces gouvernements, dans un gouvernement voyou, qui va dire j'ai signé, je me suis engagé, je dis que je vais faire ceci, et plus loin dans les documents du gouvernement, au point 10, mise en œuvre des conclusions de la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009. Le gouvernement dit ceci. Le gouvernement réaffirme sa détermination à finaliser la mise en œuvre des engagements qui avaient été pris dans le cadre de l'accord du 23 mars 2009 signé avec les CNDP et qui, tel que stipulé dans les conclusions de la réévaluation du dit accord, voire annexe C. On n'a pas vu cet annexe-là. On ne connaît pas ce que ça veut dire. N'ont pas été réalisés ou l'ont été partiellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, professeur, je suis désolé, mais quand quelqu'un appose une signature quelque part, il est tenu de respecter sa signature. Alors, le gouvernement devait utiliser d'autres mécanismes. Quand le gouverneur Paluku dit, il y a eu 5 envoyés spéciaux, et ainsi de suite. Mais combien d'envoyés spéciaux sont partis au Rwanda depuis 1994? Combien d'envoyés spéciaux? Depuis combien d'États les FDLR se trouve sur notre sol? Depuis 96 jusqu'à aujourd'hui. Depuis combien de temps les ADF Nalu se trouvent sur notre sol? La LRA. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc nous ne sommes pas un État. Et c'est pour cela, nous, au FAC, nous disons, voilà, on est en train d'affaiblir le gouvernement congolais. Parce que on n'a pas de gens, et Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes valables pour travailler avec lui, donc on n'a pas de gens valables pour défendre les intérêts du Congo, on est en train de nous affaiblir pour enfin, comme dit le gouverneur Paluku, balkaniser le Congo, parce que le plan existe bel et bien. Madame, nous avons eu dans ces pays des rébellions. Peut-être les plus jeunes ne connaissent pas. Et il y a eu la rébellion mouléliste. Quand on a défait la rébellion mouléliste, on a signé un accord, mais plus récemment. Mais avec Mobutu, on a eu des choses. Mais là, dernièrement, les Aignélés, les Bundu Dia Congo. On a Bundu Dia Congo, il y a eu des problèmes ici. Je n'appelle pas ça rébellion. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a tué les gens. Qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait? Il est parti après signer des accords. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont en prison. Jean-Pierre Bemba est à la CPI. Pourquoi? Parce qu'on l'accuse simplement d'auteur moral. Auteur moral. Et les autres. Et le gouverneur Paluku dit qu'il était avec Bosco Tangana. Il était avec Bosco Tangana à Goma. Mais Bosco Tangana était avec lui. Donc ceux qui vont venir maintenant avec les M23 et ceux qui sont ici avec les CNDP, qui sont même à l'Assemblée nationale, mais est-ce qu'on les connaît? on a regardé qui sont ces gens-là réellement et que demain, on ne craint rien. Mais là, moi,
je vais
vraiment croire à ce que le gouverneur Julien Paluku nous raconte ici.
Merci Martin Fayoulou, professeur Bob Kabamba. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au Sud Kivu.
Robert Mahomet de Bukavu au Sud Kivu. Je pense qu'étant donné la facilité avec laquelle la signature de ces deux déclarations de Nairobi a été obtenue, il y a lieu d'être tenté de confirmer la position de cette plateforme et de l'opposition par rapport à ces déclarations dont l'apparence semble quelque peu démontrer la passation d'un accord tacite entre le M23 et le gouvernement. Mais qu'à cela ne tienne, pourvu que la paix et la sécurité soient rétablies comme par le passé dans le Nord Kivu et à l'Est de la RDC en général. Tout ce même un arôme du temps.
Professeur, comment vous répondez à cet auditeur?
Oui, simplement pour lui dire qu'effectivement, il était temps que ça s'arrête et que les choses à Kampala commençaient à tourner en rond sans savoir dans quelle direction prendre, surtout savoir quel est l'objet finalement de ces discussions interminables qui ne servaient plus à rien. Et ces différents documents ne sont là que pour souligner autre chose aussi, que la fatigue des différents protagonistes, surtout, je parle des pays voisins, notamment des pays comme le Kenya, des pays comme l'Afrique du Sud, la Tanzanie, qui voulaient mettre un terme à ces différents mouvements qui continuent à sévir dans l'Est et qui pourraient servir d'exemple dans d'autres pays. Et qu'il était temps de mettre fin à cette situation. Et alors, l'autre question aussi, qu'il faut bien se rendre compte de quoi est-ce qu'on parle. Dès l'instant que la guerre est terminée, puisque la M23, c'est un mouvement rebelle, dès que l'instant que la guerre est terminée, que le 1-23 est vaincu, il n'est plus dans comme cela pourrait être dans les autres cas où il y a eu des signatures et des accords clairement établis, signés entre deux parties en conflit. Ici, dans le cas d'espèce, le 1-23 s'est autodissous en disant qu'ils ne sont plus mouvements rebelles, qui doivent maintenant se transformer en parti politique, et donc en se dissolvant comme mouvement rebelle, donc ils ne sont plus acteurs. Et pour devenir acteur sur la scène politique congolaise, il faut être un parti politique. Et tant que le M23 n'est pas un parti politique, ces accords ici, ces signatures, ces déclarations, n'ont aucune valeur. Je réinsiste que ça n'a aucune valeur et que le M23 n'existe pas, n'existe plus depuis que le M23 a dit qu'il n'est plus rébellion. Et que pour pouvoir parler et pour pouvoir faire quelque chose, la M23 doit être un parti politique agréé par le ministère de l'Intérieur suivant les lois de la République. Alors je répète encore que je dis que ce n'est pas parce qu'ils ont signé ces déclarations que l'on peut dire qu'il n'y aura plus de guerre au Congo. On le sait très bien que la guerre qui est imposée souvent à l'est du Congo n'est pas le fait du Congo, et souvent le fait de ses voisins par rapport à la prédation des ressources naturelles. Et donc, ça ne pourrait même pas être un argument pour dire que si le Congo n'applique pas sa feuille de route ou sa lettre d'intention, que c'est une guerre en perspective. Moi, je dirais tout simplement, clairement sur cette question-là, les pays voisins qui veulent faire la guerre au Congo trouveront toujours des prétextes pour faire une guerre et créer un autre mouvement rebelle, s'ils en ont les moyens et s'ils sont permis au niveau international de pouvoir le faire.
C'est
et donc là, en gros, en conclusion, ma réflexion est convaincre surtout l'honorable Fayoulou que les déclarations telles qu'elles sont là n'élient pas le gouvernement. Il s'agit simplement des lettres d'intention. Et comme c'est des lettres d'intention, comme le gouvernement peut dire que je vais obtenir 10% ou 20% de taux de croissance en 2014, entre le fait de dire que je vais 10% ou 14% de taux de croissance en 2014 et le fait de pouvoir arriver à ce taux de croissance, effectivement, là, le gouvernement congolais doit mettre en place des politiques pour arriver à cet objectif-là. Et c'est la même chose par rapport à ces déclarations. Si le gouvernement congolais n'a pas envie de pouvoir mettre en œuvre ces lettres de ses intentions telles qu'ils les ont mises dans leurs déclarations, eh ben, le gouvernement congolais ne les mettra pas en œuvre. Et
merci,
le Congo
professeur.
Va continuer à gérer, va continuer à être dirigé comme il est dirigé, et à continuer à s'occuper de ses affaires comme c'est le cas, sans que cette déclaration ne lie le gouvernement congolais.
Merci, professeur Bob Kabamba. Monsieur le gouverneur, il y a Serge Mukai Mukuta qui dit ceci. Le gouvernement congolais vient de commettre encore une fois de plus une grave erreur après celle faite sous le dossier CNDP. Cet accord servira des cas de jurisprudence pour d'autres bandits criminels et ennemis du peuple si les M23 sont amnistiés. Après des multiples crimes et violations, que dit-on des autres groupes armés, le seront-ils aussi?
Non, madame, je ne sais pas finalement que cherche le peuple congolais. Les gens voulaient que la guerre continue ou quoi? Aujourd'hui que la guerre a pris fin, je crois que ce n'est pas une erreur. La défaite militaire du M23, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait changer les rapports de force dans la région des Grands Lacs. Et comme vous le savez, l'arrogance qui s'est installée progressivement dans la région des Grands Lacs a été diminuée, elle a été détruite, elle a été défaite. C'est ça ce qu'il faut retenir de ce processus qui vient d'arriver à sa fin. Il y avait des visées hégémoniques, expansionnistes par des groupes sociologiques dans la région des Grands Lacs. Je crois que ce que le chef de l'État vient de faire avec son armée, ça nous a permis de réduire ces visées expansionnistes et hégémoniques. Et c'est là, c'est un message très important à tout autre groupe qui voudrait bien refaire la guerre à l'est de la RDC. Et pour nous, le fait que le gouvernement ait eu cette victoire militaire, ça ne peut pas l'empêcher de respecter les autres États qui l'accompagnent dans le processus. Et j'insiste là-dessus, un pays ne peut pas évoluer en vase clos. Il ne faut pas conseiller au président de la République de se passer des autres parce qu'il a eu une victoire militaire. Et demain, si les rapports de force changent, il va s'adresser encore à qui? Donc je crois que l'opinion doit avoir cette information et la bonne, au lieu que l'on profite de seulement quelques actions d'annonce, quelques actions pour attirer un peu l'opinion vers soi, pour commencer à dire que le gouvernement est tombé dans l'erreur. Il ne s'agit pas au stade actuel d'une erreur qu'on a pu faire. Je crois qu'il faut laisser de temps en temps. Le gouvernement n'a pas signé un accord en bilatéral avec le M23 autour d'une table. Le gouvernement s'engage dans le cadre de la gestion de du pays à pouvoir faire des réformes, à pouvoir s'engager dans la réconciliation. Et ce n'est pas mauvais si le gouvernement dit qu'il va se réconcilier avec l'ensemble du peuple congolais. Ce n'est pas avec le M23 qu'on va se réconcilier. Je crois que c'est clair, il faudrait que l'opinion sache que les déclarations signées à Nairobi ne constituent pas une faute lourde que le gouvernement a pu commettre.
Merci, monsieur le gouverneur Martin Fayulu. Il y a Dodi Kasongo, Akasongo de Lubumbashi Katanga, qui dit ceci. C'est bien de mettre définitivement un terme à la rébellion du M23 par la signature de cette déclaration. Cependant, l'amnistie présente un danger futur pour notre pays. Tout compte fait, d'un côté, le gouvernement a quand même réussi à avoir la signature de la déclaration portant dissolution du M23, ce qui était urgent pour lui.
Oui, mais écoutez, le professeur Bob Kabamba vient de dire que la signature de Nairobi ne veut pas dire cessation ou fin de la guerre. Non, nous ne pensons pas. On a bien signé un document le 23 mars 2009, on a signé un accord et ça n'a pas empêché ces éléments-là d'aller se constituer en groupe appelé M23. Donc je ne pense pas. Mais pour l'amnistie, parlons de l'amnistie, on va amnistier des gens qui ont violé. Parce que je ne sais pas comment ils vont repérer
ceux qui ont violé ne seront pas amnistiés, c'est clair dans la déclaration.
Comment on va le savoir? Mais comment, dis donc? Comment vous allez prendre plus de 2500 personnes si vous les amenez, vous allez savoir tel ou tel autre n'a pas violé? Comment vous allez savoir? Diomi et Jeanne Diomi Ndonga l'a croupi en prison aujourd'hui, malade, parce que on l'a accusé abusivement de viol. Alors, vous pensez que Diomi n'a pas de valeur par rapport à ces gens-là? Vous pensez que, le pasteur Coutinho n'a pas de valeur? Lui, qu'est-ce qu'il a
alors,
fait
aujourd'hui?
Alors,
il faut déjà conclure, Martin Fayulu, il nous reste moins d'une minute.
Alors, ce que je dois dire, que le gouvernement ne devait pas signer cet accord. Le gouvernement devait dénoncer l'affaire de Kampala. On parle de Nelson Mandela aujourd'hui. Nelson Mandela est resté 8 ans en prison de plus parce qu'il a refusé de signer des choses qu'il n'acceptait pas. Donc là, c'est la légèreté du gouvernement.
Merci Martin Fayulu, professeur Bob Kabamba, en guise de conclusion.
En guise de conclusion, il faut que l'État congolais se donne les moyens de sa politique, c'est-à-dire ne pas amnistier tous les criminels, plutôt les traduire en justice, et traduire en justice tout ce qui a été appliqué dans les violences contre les populations civiles. Et en faisant ça, je pense que le gouvernement congolais aura réussi à retrouver une crédibilité auprès des populations qui ont beaucoup souffert dans le nord et sud Kivu.
Merci, professeur Bob Kabamba. Monsieur le gouverneur, conclusion.
Oui, madame, les relations internationales sont ce qu'elles sont. Le mérite de ce processus qui vient d'arriver à sa fin, c'est qu'au moins les masques sont tombés et le peuple congolais sait que dans la région des Grands Lacs, il y a des États qui avaient des visées contre la RDC. Maintenant qu'ils sont connus, on peut évoluer en nous respectant mutuellement.
Merci, monsieur le gouverneur. C'est la fin de cette émission. Merci à Guy Maté, Alain Hung, Samuel Katchak, sous la supervision de Martin Sebujangui, qui m'ont aidé à préparer et réaliser cette émission. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa au micro qu'elle écoutait. Vous pouvez réécouter cette émission demain à 4h15, heure de Kinshasa. Bonne suite de programme sur notre en compagnie de programme de Radio Capi.